Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdilois. Aujourd'hui, nous recevons Philémon Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Et Jérémy Legland.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Donc, vous êtes avec Erdilois pour nous annoncer la nuit du conte qui se déroulera le jeudi 20 août de 20h à 1h. Et ça se passera au 355 avenue Rhin et Danube à Dish. Alors, il y aura aussi, on expliquera à la fin, quelques conseils pratiques hein, pour assister à cette Nuit du Conte. C'est la combienième
La deuxième Nuit du Conte. Et on est très content de pouvoir la refaire parce que bon, l'an dernier, ça s'était bien passé. On n'avait pas eu le nombre de spectateurs attendu parce que l'an dernier, le 23 mai, il faisait un peu frais quand même. On a fini assez tard dans la nuit. Il faisait 10 degrés, 12 degrés. Donc c'était pas très...
engageant.
Voilà, engageant pour les gens. Et là, ben, on va arriver en pleine canicule, peut-être un peu moins. Ça se trouve, s'il y a 4-5 degrés de moins, ça serait bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est la deuxième.
Le cadre, c'est un jardin ?
C'est un jardin avec des cèdres. Juste en face du camping des Hollandais, comme on dit.
Le camping des Rioux-Merle.
Voilà, de Rioux-Merle.
Le Rioux-Merle.
Voilà, c'est juste en face du camping.
Et donc, pour cette nuit du conte, plusieurs conteurs seront présents, dont vous deux, Philémon et Jérémy, mais aussi Léon Lecomte et Ghislain Papin.
Oui.
Que j'avais déjà reçu auparavant aussi, pour d'autres émissions.
Ghislain, il tourne pas mal dans... Sur le Diwa, quoi, en fait, il est assez repéré, on va dire, pour pas mal d'animations. Et puis, on a deux... Alors, les quatre que tu as cités, c'est le collectif des contants, donc, qui s'est créé sur le Diwa, des conteurs du Diwa. Et là, on a deux invités EES, qui sont Laureline...
Qui sont Auréline et Laure.
Laure, tout le monde, voilà. Et qui viennent, qui arrivent sur le Diwa et qui vont commencer à compter avec nous ce soir-là. Voilà.
Cette nuit du conte, c'est aussi une tradition hein, orale, familiale, même villageoise, de ces soirées autour d'un feu, peut-être, pour écouter des histoires.
Oui, ben, par les temps qui courent, on ne fera pas le feu. Mais, mais parce que c'est un peu risqué. Mais effectivement, il y a de ça. C'est quelque chose d'archaïque, en fait. Le conte et puis la veillée familiale. Parce que là, on espère qu'il y aura des enfants encore, cette fois-ci. Et qu'il y ait un peu toutes les générations qui puissent être là. Donc chacun peut poser son sac de couchage, son petit fauteuil. On a un terrain qui est accueillant.
Oui.
Voilà.
Comment se passe cette soirée à partir de 20h ? Est-ce qu'il y a une succession de vous pour les contes et, ou alors est-ce qu'il y a aussi des intermèdes, des échanges ou peut-être des pauses aussi pour se rafraîchir
ben, il y aura régulièrement des pauses, hein, oui. C'est ce qu'on a prévu.
Oui, on a prévu d'échelonner environ 3 quarts d'heure de contes suivi d'un quart d'heure de pause à chaque fois. Pour qu'entre deux sessions de compte, les personnes du public et puis même les compteurs-compteuses aussi puissent voilà, se rafraîchir, éventuellement passer aux toilettes, voilà. changer de place s'ils n'étaient pas installés comme ils voulaient. Donc, et pour que ça puisse, pour que le marathon soit confortable pour tout le monde et jusqu'au bout de la soirée.
Parce qu'il y aura une petite buvette et une petite restauration. Je dis petite parce que on n'est pas non plus une épicerie,
voilà.
Mais il y aura de quoi se ravitailler. Et puis les gens peuvent porter quelque chose. Et il y a le camping juste en face aussi qui peut...
Qui fait pizzeria et bar. Donc on peut tout à fait venir avec son... C'est même recommandé, son ravitaillement, son boire, son manger. Voilà, c'est tout à fait faisable comme ça.
Ces comptes, j'imagine qu'il y en aura au moins 6 un par intervenant ou alors est-ce que chacun propose plusieurs comptes.
Alors, entre 8 et 9 heures, ce seront nos deux conteuses invitées qui comptent. Et puis après, chacun des comptants aura 3 quarts d'heure. Bon, en gros, 3 quarts d'heure, si c'est entre une demi-heure et une heure. Donc, chacun a cet espace-là pour choisir ses comptes. Et il n'y a pas de thème à la nuit du compte.
Ouais, c'est libre.
Voilà. Et voilà, donc chacun fait son panorama de comptes. Voilà, ça peut être aussi un seul compte pour une personne éventuellement, mais voilà.
Est-ce que parfois ce sont des créations nouvelles qui seront proposées ou alors ce sont des comptes qui ont fait leur preuve?
Ben souvent, pour une nuit du compte, c'est mieux d'avoir des comptes qui ont fait leur preuve, qui ont rodé. Mais bon, on ne s'est pas mis de contraintes chacun, ouais. En fait. Hein, ça se trouve, tu auras un compte, Jérémy, qui n'aura jamais été dévoilé.
Bah probablement, voilà, je le dis en avant-première, probablement il y aura la femme jardin que j'ai sortie là pour moi pour la première fois en balade comptée il y a quelques jours jeudi dernier là, et que ça faisait un moment que j'avais envie de le raconter, j'avais entendu il y a très longtemps un conte de Georgie, et puis ça me trottait un peu, et puis là comme dans notre balade comptée on passait devant un très très joli jardin caché d'ailleurs du vieux dit quartier Saint-Marcel, bah c'était l'occasion de le travailler, et donc celui-là sortira sûrement. Après pour ce qui est des autres collègues conteuses, conteurs, bah, chacun fera comme il le sent à ce moment-là. Quoi.
Et d'ailleurs, ces deux Diwas invités qui ouvriront la soirée ont elles-mêmes aussi un héritage de conteuses ou alors c'est un travail qu'elles se sont appropriées.
Alors, je ne connais pas trop Auréline, c'est Jérémy qui connaît Auréline, il a raconté avec elle.
Eh bien, bah pour ce que je peux en dire, parce qu'elle n'est pas là pour parler en son nom, c'est assez récemment hein, qu'elle s'est mise au compte, là, je dirais peut-être un an ou deux, et puis elle a osé là, sauter le pas de dire bah, « oui, je suis bien motivé pour raconter avec vous à la nuit ». Donc oui, elle a raconté déjà plusieurs reprises dans les années écoulées, mais voilà, c'est un peu un nouveau domaine où elle s'exerce, quoi. Donc ça va être intéressant pour elle et pour nous, quoi.
Elles-mêmes se sont dirigées directement sur cette activité de conteuse, ou alors elles seront passées par le biais du théâtre ou des arts vivants pour se former?
Bah, là encore, je peux parler que pour Auréline, parce que l'autre conteuse, je ne la connais pas. Elle, elle est plutôt venue à cette discipline, si on veut aller par là, par le biais de... Elle a fait de l'éducation à l'environnement, notamment avec des classes. Et dans ce cadre-là, ça peut arriver qu'on utilise le conte comme outil pédagogique. Donc en fait, elle a démarré comme ça, quoi. Puis je sais qu'elle a aussi un peu raconté, elle a bossé en station, station de montagne l'hiver dernier là. Et à cette occasion-là, elle a raconté quelques fois. Oui, c'est plutôt le côté pédagogique en fait par la porte par laquelle elle est rentrée dans l'outil conte, quoi. Voilà.
Et pour ce qui est de la deuxième invitée,
alors Laure Tout le Monde, par contre, elle est conteuse professionnelle, mais elle était d'un autre coin, je crois, la Drôme provençale, il me semble.
Je ne sais pas du tout.
C'est des conteurs de la Drôme provençale qui nous ont signalé que Laure Tout le Monde venait habiter à Die. Alors bon, on l'a invitée naturellement. Elle semble expérimentée. On ne l'a pas encore entendue. On a fait confiance aux amis qui nous ont signalé son arrivée, notamment Virginie Comagnéki qui nous avait annoncé ça. Donc voilà, c'est un nom qui est connu dans le milieu du conte, mais personnellement, je n'ai jamais entendu quoi.
Vous-même, Jérémy Philémon, vous avez une idée de ce que vous allez conter, ou alors vous êtes encore en train d'être dans une sorte de phase de maturation de ce qui sera proposé?
Oui, pour ma part, j'ai un ou deux comptes que je suis à peu près sûr qu'ils vont vouloir sortir. En fait, c'est pas moi qui veux les faire sortir, c'est eux qui vont vouloir sortir. Et après, pour le reste, non, j'ai pas encore. C'est pas encore totalement finalisé. Il reste encore un petit peu de temps pour que ça mature. C'est ça, le choix des comptes. Ouais.
D'ailleurs, ces comptes sont de quelle origine, ceux que vous allez citer?
De différentes aires culturelles, ça peut être oui, ça peut être la Norvège ou ça peut être là, c'est surtout cela que j'ai en tête ou Norvège, Caucase. Donc c'est pas, ouais, c'est pas les mêmes aires, mais et puis après comme ceux qui, ouais, pour le reste comme j'ai pas décidé, je, ça, voilà, ça peut aller aussi du côté Amérique centrale, Bretagne aussi, donc des territoires assez différents, mais parfois les, finalement les comptes sont, on peut avoir des comptes avec des trames, des structures très similaires, alors que les régions culturelles peuvent être vraiment à des milliers de kilomètres et sans contact connu entre elles. C'est ça qui est intéressant avec le compte, quoi.
Et là, à titre d'exemple, quelles sont les trames similaires à ce que vous allez proposer ?
Ouais, là, j'ai un exemple. Alors, je n'ai pas forcément utilisé cela, mais il y a un exemple qui est très frappant. C'est qu'il y a beaucoup d'années, là, quand j'habitais à Montpellier, là, il y avait une espèce de librairie un peu foutraque, un peu marrante, là, qui organisait des sessions de comptes toutes les semaines, et avec des compteurs occitans, mais aussi des gens un peu de partout. Et j'avais raconté un petit conte de la Caraïbe qui est assez amusant. C'est un conte plutôt ironique, en fait, qui finit un peu en queue de poisson, bon, mais qui est assez court. Et dans l'assistance, il y avait quelqu'un, un gars, une personne qui avait grandi dans le désert marocain, et qui m'a dit, mais c'est incroyable, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu exactement cette histoire, mais qui se passait chez nous dans le désert marocain. Alors qu'a priori, entre l'ère culturelle berbère et puis et les créoles des Caraïbes, parce que là c'était dans une ère créole, il n'y a aucun contact connu. Et donc c'est amusant que ces deux histoires-là se retrouvent dans deux régions du monde très éloignées à tout point de vue. C'est vraiment assez fascinant.
Philémon, pareil, hein, ce choix de conte. Quels sont les pays d'origine ?
Alors moi, c'est souvent les contes du Maghreb, puisque je viens d'Algérie. Et Maroc ou Algérie, ce sont mes contes privilégiés. Alors j'ai aussi j'ai une spécialité de contes amérindiens, parce que j'ai une amitié avec les chercheurs du Diwa qui travaillent autour des Amérindiens. Et donc, j'ai toujours des contes amérindiens à proposer. Donc, je pense que ça sera un mix entre les deux. Et après, j'ai une troisième piste, c'est mon arrivée à Marseille. J'ai quand même habité 34 ans à Marseille. Et mon arrivée à Marseille, je l'ai un peu transcendée dans un conte parce qu'elle était merveilleuse. Voilà. Comme souvent, cette ville propose des moments merveilleux. Et moi, j'ai eu une arrivée merveilleuse à Marseille. Donc, voilà, sûrement, si je le sens, je raconterai ça aussi.
Vous deux, donc, en tant que conteur, c'est une activité que vous pratiquez régulièrement avec une constance, ou alors des périodes plus en plus rares ?
Moi, je le pratique régulièrement. Donc là, je vais aller à Marseille pour l'automne, où je vais raconter, j'ai plusieurs dates à Marseille. Je vais raconter à Nîmes aussi, dans un petit théâtre. Le théâtre de la Placette à Nîmes. Donc j'ai des dates à l'extérieur. Je me suis calmé sur le fait de faire toute la France. Parce que les années précédentes, j'ai fait la Bretagne, j'ai fait l'Alsace et tout. Et puis maintenant, je deviens un conteur local, mais un conteur local au sens large. C'est-à-dire que pour moi, c'est un conteur local où j'ai des gens que j'aime. Et Marseille et Toulouse, c'est mes deux points de compteur local avec le Diwa, quoi. Donc, ce qui est quand même assez large.
Et Jérémy, pareil, c'est une activité pratiquée
Ça a eu été une activité professionnelle, mais secondaire, parce que j'étais d'abord guide nature et c'est ça qui me faisait vivre. Et le compte, c'était une partie de mes revenus, mais seconde. Et donc, avec, c'est pareil, des dates, des déplacements à droite, à gauche. Et puis, j'ai arrêté ce côté-là de déplacement et de démarchage qui était un peu chronophage, j'avais plus envie de ça. Et là, ça fait 2 ans où je reprends le goût de compter, de faire un peu, mais de manière un peu régulière. Mais pour l'instant, voilà, ça reste une activité que je fais avec passion, mais de manière régulière, mais avec parcimonie. On va dire ça.
Alors, et Léon et Ghislain sont des conteurs professionnels encore.
Le cadre, est-ce que pour vous, il y a de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire dans des lieux pas très grands où les gens peuvent se mesurer, se, Ça revêt un peu cet aspect-là, ou alors vous parlez donc de lieux comme à Marseille ou à Nîmes, est-ce que ce sont plus des salles de spectacle ?
Ben, à Marseille et à Nîmes, effectivement, c'est en théâtre, mais moi, je me sens bien, en fait, chez les gens. Ouais. Ma préférence, c'est d'aller raconter chez les gens, qu'il y ait une vraie soirée intime, familiale, amicale, où les gens accueillent un conteur. Et en général, j'aime bien rester manger, puis même dormir pour raconter encore des histoires le lendemain matin. Donc c'est une incruste totale. Mais en fait, j'assume, c'est ce que je préfère. Voilà, c'est vraiment les soirées que je préfère.
Voilà. On l'appelle le conteur Bernic. Il s'accroche au rocher.
Oui, je vois. Nous, on appelle ça des cracoïs. Ah. Ces petits crustacés qu'on peut voir aussi sur les coquilles de moules.
Ah, ouais. Très intéressant.
Ça, c'est une expression du sud-ouest, hein, ouais, les cracoïs. Ouais. Et donc, je reviens un peu sur le collectif des contents. On peut rappeler aux auditeurs hein, cette volonté de ces conteurs à se rassembler autour de ce collectif. Qu'est-ce que cela amène hein, et est-ce que cela permet aussi d'avoir une plus grande visibilité, oui, notamment dans le Diwa, mais aussi au-delà?
Ben, en fait, moi, quand je l'ai proposé à tous mes amis conteurs du Diwa, à ceux que je connaissais en tout cas, parce que maintenant, il y a des nouvelles qui arrivent. Quand j'ai proposé ça, l'idée, c'était déjà de se rencontrer. Et puis de raconter parfois, comme on a fait, des soirées au Coq qui disserte, qui est dans les anciennes usines. À Andarta, on en avait fait une. Et puis de créer cette Nuit du Conte, qui est un événement pour le Diwa, quoi. Donc l'idée, c'était de se rencontrer. Et puis si on peut raconter ensemble, ben c'est bien, quoi. C'est tout bénef. Voilà.
Et puis associé, il y a les conteureuses du Diwa.
Ouais.
Ça, c'est une autre structure également.
Non, c'est
vous.
C'est notre amie Léone qui met conteureuse pour faire de l'inclusif. Donc, c'est conteur et conteuse.
Voilà, c'est pour dire exactement la même chose, voilà. Conteur et conteuse, bon. C'est ça.
Et Chansigne, alors ?
Eh bien, Chansigne, alors moi, je suis coprésident de l'association Chansigne, qui est l'association qui travaille à la mémoire de l'œuvre de Maurice Benin, donc le chanteur Diwa, et qui était mon ami, et qui le reste maintenant, même s'il est mort. Et en fait, l'idée, c'était que par le biais de cette Nuit du Conte, je signifie que Maurice Benin est très présent dans mes contes. Voilà. Donc j'ai proposé à l'association Chansigne d'être actrice dans cet événement, parce qu'effectivement, souvent, les amis de Chansigne, de l'association, quand ils viennent me voir conter, ils me disent « Maurice était présent ce soir ». Ils reconnaissent des extraits de chansons, des expressions de Maurice. Donc, parce que j'ai raconté avec Maurice, on a fait des coplateaux où il chantait et je racontais, notamment aux rencontres de l'écologie, on l'a fait en 2019. Et donc, voilà, j'ai une amitié forte et je crois que je raconte grâce à Maurice Benin. Voilà, ça, c'est sûr.
Avant de continuer, je proposerai bien une petite écoute de la part de Jérémy.
Allez.
Un extrait, donc.
Ouais. Oh, ça va même être un conte en entier, parce qu'il est court.
D'accord.
On va se transporter en forêt. C'est l'histoire d'un oiseau. Un oiseau, alors vous le connaissez peut-être, mais c'est pas sûr. Alors je vais le décrire un petit peu, c'est la bécasse. La bécasse, vous savez, c'est cet oiseau de petite taille, extrêmement discret, timide, avec un long bec, un plumage finalement pas flamboyant, non, un peu terne, hein, pour des raisons de camouflage. Donc la bécasse, cet oiseau au long bec, les yeux sur le côté, hein, c'est vraiment ces oiseaux qui ont toujours peur d'être mangés, hein, des espèces proies. Donc les yeux sont pas devant comme nous, hein, sont sur le côté pour voir arriver les problèmes. Et donc cette bécasse, là on est au printemps, la bécasse, elle a eu des petits. Elle a eu 5 petits. Ils sont mignons comme tout. Et puis, dans la vie de la bécasse, à ce moment-là, la famille, il faut la nourrir. Et puis, il faut aussi la protéger. Parce qu'à quoi bon s'occuper de ses petits, c'est pour qu'ils soient mangés par le renard ou par le hibou. Ah. Et puis, justement, Il y en a un qui aime bien les bécasses pour les mettre dans, dans son assiette, c'est le chasseur. Et oui, les humains aussi mangent les bécasses, et plutôt deux fois qu'une. Et justement, ce jour-là, un chasseur très connu, très réputé, très fort, d'un village voisin, part très tôt le matin pour sa chasse. Alors, le chasseur, il est bien réveillé, il est bien équipé. Et là, il sent qu'il va faire une bonne chasse. Il a sa gibecière sur le côté, son grand couteau, il a tout ce qu'il faut. Le voilà parti. Puis, un petit peu éloigné du village, il prend un chemin encore assez large qui s'engage vers la forêt avant d'aller prendre des sentes toutes petites. Et là, à la fin de ce grand chemin, au détour d'un buisson, il ne peut pas avancer parce qu'il y a un animal qui lui barre la route. Oh, quelle insolence! Et cet animal, c'est la bécasse. Elle qui ne sort jamais du sous-bois, qui ne se met jamais en vue. Elle est en plein milieu de la fin du chemin, là, elle bloque le passage. Le chasseur, il reste bouche bée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et la bécasse, elle lui dit, hey, chasseur, tu sais, ce printemps-là, j'ai eu 5 petits. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et là, je voudrais, cette année, je voudrais les garder. Tous les ans, j'en perds, entre les prédateurs comme toi, entre le mauvais temps, entre la maladie, ils grandissent pas tous. Et là, cette année, je me suis dit non, je veux les garder tous. Et toi, tu fais partie de ceux qui m'en enlèvent. Alors s'il te plaît, chasseur, pour une fois, cette année, je te demande, si tu tombes sur eux, de ne pas les tuer, les laisser tous en vie. Est-ce que tu veux faire ça pour moi ? Le chasseur, évidemment, il n'a aucune raison de dire oui. Il pourrait plutôt lui tirer dessus un coup de fusil et c'est fini. Mais il est assez bluffé par le courage et la vaillance de ce tout petit oiseau, faible, qui n'est même pas extrêmement rapide. Il dit, bon, écoute, c'est vraiment pas, c'est pas dans les tuyaux, normalement, je fais pas ça, moi. Hein. Non. Mais là, tu m'as étonné. Alors, ok, d'accord. Ouais, ok, je trouverai d'autres gibiers. T'es petit, là, tes petits bécassos, je vais les laisser tranquilles. Eh, mais, attends, comment je les reconnais, moi, tes petits? Eh, vous êtes je ne sais combien dans la forêt, là. La bécasse s'est dit, oh, mais mes petits, c'est très facile. Bon, tu connais les bécasses. Ah, mes petits, ce sont les plus beaux, les plus jolis de tous les petits oiseaux. Le chasseur a dit, c'est un peu vague, mais ok. Continue sa route, il fait sa chasse, il suit des pistes, il attrape un lapin. Bon, il fait une chasse pas trop mauvaise. Plutôt une bonne journée. Ah, il est égratigné en tous les sens, mais ça, c'est le jeu. Très bien. Puis en fin de journée, le voilà qui rentre chez lui, qui repasse au même endroit et qui croise à nouveau le chemin de la bécasse qui s'était remise en place pour voir un peu ce qui se passait. Alors la bécasse, elle croise, elle voit le chasseur passer à côté sur le chemin, elle le regarde de bas en haut et voit que de sa ceinture, la gibecière est pleine, tout ça, et de l'autre côté, il y a 5... Il y a 5 oiseaux qui pendent, attachés par le cou. Et les 5, ce sont ses petits. Alors elle saute sur le chemin, alors qu'elle était bien cachée jusque-là. Elle dit « Ah, chasseur, chasseur !» Le chasseur, il s'arrête et il dit « Oui, ah, mais encore toi ?»« Chasseur, tu m'avais promis de ne pas leur faire de mal, de les laisser en vie. Et là, je vois qu'ils sont attachés à ta ceinture, tu les as tués. » Le chasseur, il regarde sa prise, il dit « Ouais, les 5 là, oui. Non mais regarde-les, ces oiseaux-là, ils sont vilains comme pas un. Je me suis dit que ça pouvait pas être les tiens. » Et la bécasse, elle baisse la tête et elle dit « Chasseur, mais tu devrais savoir que nous, les mères, quand on parle de nos enfants, ce sont toujours les plus beaux. » Et cric et crac, l'histoire retourne dans le sac.
Merci Jérémy. Ce texte émane de quel pays, par exemple ?
Tradition orale, je ne sais plus du tout où je l'ai pêché. Je ne sais même plus si je l'ai entendu ou si je l'ai lu, parce qu'il y a un certain nombre de contes comme ça que j'ai par les oreilles au cours de rencontres avec d'autres conteurs, des spectacles, des trucs, des machins. Et je veux surtout pas les voir par écrit parce que ça brouille après et c'est plus la même chose. Et puis il y a évidemment d'autres contes comme tout un chacun. Maintenant on est dans des cultures de l'écrit, donc je les lis. Mais celui-là, je suis incapable de savoir où je l'ai récupéré et je ne connais pas non plus son origine.
Effectivement, les contes se transmettent oralement, principalement. Seuls quelques auteurs se sont permis d'en écrire, mais ça ne compte. Apparemment, ça déplaisait justement à la profession. L'important, c'est aussi cette immatérialité de la pensée qui est importante, selon vous.
Oui, alors, et personnellement, je raconte beaucoup des contes de Grimm. Qui est considéré comme un répertoire. C'est un conte de répertoire. Donc, ils ont été écrits au XVIe, XVIIe siècle. C'était du collectage d'histoires populaires d'Europe centrale. Et leur écriture, puis leur traduction en français, a quand même très affadi ces contes-là. Et quand on revient vers les contes de Grimm, eh ben, en fait, on a des bonnes surprises. Alors, moi, je rentre dans un conte de Grimm, mais à la première lecture, je me fais mon histoire. Et après, je ne le relis pas. Et j'ai été étonné l'autre jour, j'ai vu une chorégraphie Pi, celui qui était au Festival d'Avignon, un chorégraphe français, P-Y.
Ah oui, Olivier Pi.
Olivier Pi, voilà. Et il racontait comment il avait travaillé sur un conte de Grimm. En fait, il ne l'a jamais lu. Il avait vu une œuvre tirée de Grimm et il a fait son travail à partir de ça. Donc ça m'avait plutôt intéressé parce que en fait, dans Grimm, il y a les forces de la nature, il y a des drames, des tragédies, et en fait. Il n'y a pas besoin d'être près du texte pour être près de Grimm, parce que les contes de Grimm, ils parlent de nous, en fait. Ils parlent de la famille, ils parlent de la société, ils parlent des peurs villageoises. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très, très présentes dans nos vies actuellement, quoi, en fait.
Actuellement, avec ces canicules, grand nombre d'incendies ont lieu en France, mais beaucoup aussi ailleurs. Est-ce qu'il y a des contes qui parlent justement de ces catastrophes de n'importe quelle sorte, hein.
C'est pas des contes que j'ai recherchés.
Mais est-ce qu'il en existe, voilà. À votre connaissance?
Il y a forcément des contes sur la peur du feu, de l'incendie. Je vois quand le Canada s'embrase comme il s'embrase. Les amis conteurs québécois, ils ont forcément, quelques-uns ont ce thème qui ressort. Alors, moi, je me verrais très mal raconter ça, même après les incendies de Die, où il y a besoin de faire baisser la température. Justement, je ne vais pas mettre le feu à une salle pour raconter des contes autour de ces peurs, parce que c'est vrai qu'il y avait une telle émotion récemment à Die. Quand j'ai fait l'oiseau de vérité au moment des incendies, en fait, l'idée, c'était d'être dans le merveilleux sans être dans la peur, quoi. Je rajoute pas du chaud au chaud, mais il y en a sûrement. Après, c'est la posture du conteur de voir comment il veut se mettre dans la société, quoi. Ouais.
Finalement, peut-être pour finir l'émission. Toi-même nous conterais un extrait de conte. Alors, pas tout de suite, parce qu'on va passer aux informations pratiques.
Oui.
Donc, effectivement, ça se passera au 355 Avenue Rhin et Danube à Die,
oui.
À partir de 20h jusqu'à 1h, jeudi 20
alors,
août.
Alors, à partir de 19h45, les gens peuvent rentrer. Hein, donc là, ça sera ouvert.
Oui, le guichet sera ouvert à 8h moins le quart.
Voilà. Et après, les gens s'installent et on commence avec les deux invités qui auront en tout 3/4 d'heure, puisqu'elles ont 20 minutes chacune. Et puis après, une fois qu'elles ont fini, on a une collation et puis le collectif des contents commence à raconter. à ce moment-là.
Voilà, et puis pour certains qui le désirent, il y a possibilité d'amener matelas, duvet, pique-nique, et oui. boissons chaudes également, au-delà de ce que vous proposerez.
Voilà, c'est ça. C'est autorisé même de s'endormir et de se réveiller. Tout est libre. Les gens ne sont pas attachés jusqu'à 1h du matin. S'ils veulent s'endormir et aller rentrer chez eux, ils peuvent le faire. Mais donc, et c'est 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants.
Et pour avoir connaissance d'informations supplémentaires, il suffit d'appeler le 06 73 17 90 35. Et donc, nous allons terminer cette émission avec un extrait de conte opéré par Philémon Garcia. Et je vous souhaite en tout cas, Jérémy et Philémon, une bonne soirée et merci d'être venus sur Erdiwa.
Merci.
Merci pour l'accueil.
Merci à toi. Alors, j'ai une petite histoire qui m'est venue du Japon. Un ami japonais m'a raconté une histoire d'amour que je trouve fabuleuse entre un rossignol et un cerisier. Alors c'était de l'amour tendre, ils étaient épris, ils étaient amoureux, un amour sensible, sensuel, physique, tactile. Le rossignol tournait sans cesse autour de son amour, le cerisier, avec ses ailes, il caressait les feuilles et les branches, et quand le cerisier était fleuri, il caressait les fleurs de son amour. C'était beau à voir, et puis chanter pour lui. Et en contrepartie, le cerisier se faisait beau une fois par an, fleurissait. Et cette beauté du cerisier, c'est ça qui plaisait au rossignol. Oui, ils étaient épris, mais parfois les amoureux qui sont épris ne savent pas forcément s'y prendre. Et l'amour, ce n'est pas facile. Voilà. C'est ce qu'on peut dire dans nos vies. L'amour, ce n'est pas facile. Et un jour, les premiers reproches. C'est le rossignol qui a dit les premiers reproches. Il a dit au cerisier, « Moi, j'aurais voulu voyager avec toi. Mais non, t'es planté dans le sol, t'es plombé, tu bouges pas. J'aurais voulu danser aussi avec toi. Mais non, tu bouges pas, tu quittes pas ce sol, tu bouges pas. Et puis aussi, tu fleuris qu'une fois par an. C'est pas beaucoup quand même. » Voilà, il se recevait ça, le pauvre cerisier, en reproche. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ces histoires d'amour où ils n'y arrivent pas, c'est que l'autre se croit obligé de répondre, d'avoir lui aussi des remarques à faire. Et le cerisier qui dit au rossignol, « Mais toi aussi, t'es un peu hyperactif comme garçon, quoi. Tu bouges tout le temps, tu changes tout le temps de branche, je ne sais jamais où tu es. Et puis je suis sûr que tu vas voir d'autres arbres. » Ça, c'est sûr que l'amandier qui fleurit avant moi, il te plaît, l'amandier. T'es sûrement allé voir l'amandier. Il lui dit tout ça. Puis il lui dit, et le silence de la forêt. Toi, tu connais pas, toi. Non, toi, t'es tout le temps en train de chanter. Tu respectes pas les autres oiseaux et le silence des arbres. Non, vraiment, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est pas bien ce qu'on vit, tu as raison. Ils en étaient là, de leur amour. Ou de leur non-amour, parce que finalement, à force de se reprocher des choses, c'est plus de l'amour, quoi. Et heureusement, au Japon, l'ami m'a parlé du Japon, du soleil comme une divinité. Alors nous, a dit, on a le glandas, c'est presque une divinité pour nous. Le glandas, c'est une présence forte. Et les Japonais, ils ont le soleil qui est une présence forte, qui est généreuse, qui a un rôle de divinité. Et cette divinité a vu ces deux amoureux qui n'arrivaient pas à s'aimer, épris, mais ils ne savaient pas s'y prendre, quoi. Alors, le soleil les a entourés d'une bulle de chaleur pendant un an, une bulle d'amour et de bienveillance. Et puis, il a laissé faire tout ça, cette bulle d'amour et de bienveillance. Et ça s'est accompli. Un an est passé, au premier jour du printemps, ça s'est accompli. Et quand la bulle a été enlevée, le rossignol a fleuri et le cerisier s'est envolé. L'amour.
Ah.